puisque c'est le dernier cours. Et qu'on en était à la subsistance. Et la subsistance, on en reparlera quand on regardera ce qu'est la personne. Une personne nécessairement subsiste. C'est le caractère authentique de la personne. C'est d'avoir son indépendance. Si on est un petit mouton derrière sa maman, on reste toute sa vie dépendant. Un petit mouton. Pas un bélier. Il y a des personnes qui n'ont pas apparemment, psychologiquement, la subsistance ne paraît pas beaucoup exister. Ils sont dépendants de l'opinion. C'est ça qui est effrayant dans notre monde d'aujourd'hui, c'est que les moyens d'information sont tels que beaucoup de personnes vivent uniquement au niveau de l'opinion. Or, l'opinion ne vous donne aucune indépendance. Vous êtes dépendant de l'opinion. Vous ne pouvez pas arriver par vous-même à critiquer l'opinion. L'opinion remplace l'autorité de Dieu. On a un monde qui n'est plus croyant et qui vit de l'opinion et qui se soumet à l'opinion. Vous voyez, ça devient constamment la caricature de ce que la foi nous donne. La dépendance à l'égard de Dieu, c'est notre noblesse, puisque Dieu nous a créés pour que nous soyons libres dans l'amour. Et toute l'éducation du Père sur nous, c'est de maintenir en nous cette liberté pour qu'on puisse aimer. Parce que celui qui aime, celui qui est totalement dépendant, ne peut plus aimer. Parce que vivre de la dépendance de quelqu'un complètement empêche la liberté de l'amour. Et alors, on obéit. L'obéissance remplace l'amour. L'obéissance qui doit être le fruit de l'amour, l'obéissance remplace l'amour. C'est la grande caricature de la vie chrétienne. Et c'est une caricature qui vient du démon, hein. Elle ne vient pas de l'Esprit-Saint. Parce que l'Esprit-Saint nous fait comprendre que être libre pour aimer, la liberté ne remplace pas l'amour. Et l'amour est avant la liberté. C'est l'amour qui nous rend libres. Et c'est l'amour qui nous donne notre autonomie. Alors vous voyez, la subsistance traduite au point de vue psychologique, c'est-à-dire psychologique, traduite du côté de la vie, c'est notre indépendance. Nous sommes libres d'aimer et nous aimons librement Dieu comme celui qui est l'auteur de notre vie. Et c'est pour ça que, au point de vue de la personne, il n'y a pas de personne humaine sans le point de vue de l'autonomie. Créer éducation où l'on rend les gens complètement dépendants comme des petits moutons n'éduque pas la personne. Ça fausse tout et ça touche à ce qu'il y a de plus profond en nous, la subsistance. Et c'est très grave alors. Là, c'est ça qui est toujours très difficile dans l'éducation, surtout dans l'éducation religieuse. C'est que dans l'éducation religieuse chrétienne, l'obéissance est quelque chose de fondamental. Ça, c'est sûr. Le Christ est mort dans l'obéissance. Et nous mourrons à nous-mêmes dans l'obéissance. Mourir à soi-même. Le Christ le demande. Hein. Mourir à soi-même. Et c'est rude de mourir à soi-même. Considérer que toute notre vie n'est rien. On n'a rien qui constitue notre vie, qui est le fruit de notre vie. L'éducation chrétienne doit arriver à nous faire comprendre qu'il faut mourir à soi-même par rapport à la volonté du Christ. Mais on est souverainement libre à l'égard des opinions des hommes. On ne vit pas pour que les hommes nous applaudissent. On ne vit pas pour avoir l'opinion chaleureuse des hommes. Non. Notre subsistance est plus noble que cela. Notre subsistance n'est pas en référence de l'opinion des hommes. Notre subsistance est en référence de notre substance qui vient de Dieu. Vous voyez, il y a quelque chose de radical dans notre vie et dans notre personnalité chrétienne. La personnalité philosophique ne va pas jusque-là, mais la personnalité chrétienne va jusque-là. L'obéissance à l'égard de Dieu, c'est l'offrande de notre vie. Jésus l'a réalisée à la croix, il a offert sa vie. Celui qui meurt par amour pour le Christ, c'est celui-là qui obéit. Donc c'est vertical, c'est radical. Et cela nous donne alors une liberté intérieure très grande, puisque on ne cherche qu'une seule chose, accomplir la volonté de Dieu. C'est la seule chose qui demeure, qui est éternelle, qui nous stabilise, accomplir la volonté de Dieu. Alors, on n'est jamais sûr d'accomplir la volonté de Dieu, on peut toujours se tromper, mais on a une certitude pratique suffisante. On est entré au noviciat par amour pour Jésus, pour tout lui donner. C'est ça, c'est cette certitude pratique. On n'est pas entré pour sa gloire. On n'est pas entré pour que les hommes nous regardent comme étant quelque chose de très grand. Non. On entre. On veut vivre de la volonté du Père. Vous voyez, comprenez bien l'écho, la propriété de la subsistance au point de vue vie. dis pas au point de vue psychologique, mais au point de vue vie. Il faudrait que le point de vue psychologique chez nous soit toujours en référence à la vie de l'intelligence et du cœur. La psychologie n'est jamais première. Toute décision qui se prend à partir d'un point de vue psychologique est fausse. Et ça, il faut le voir métaphysiquement. Tant qu'on ne l'a pas vu métaphysiquement, on est comme tout le monde. On suit l'opinion du psychologue. La dernière retraite que j'ai prêchée au Canada à des religieuses, c'est quand j'ai vu que chaque religieuse avait son psychologue. Et que par le fait même, dans une retraite, on prend une décision de se corriger, d'aller plus. C'était en dépendance du psychologue. C'était lui qui donnait le dernier cachet. Alors j'ai dit à ces religieuses, c'est la dernière fois que je vous prêche. La fois prochaine, c'est le psychologue. Et comme le psychologue est différent pour chacune d'entre vous, je ne sais pas comment vous ferez. Il n'y a plus d'unité. Alors, ça va mieux maintenant. Et la vague psychologique est dépassée, mais elle reste toujours un peu. Mais à un moment donné, c'était il y a 20 ans de ça, c'était extrêmement fort. Et donc ça empêchait la vraie direction spirituelle. Ça empêchait la vraie prédication. Et il y avait un obstacle. La psychologie est remplacée. Alors il faut voir. Ça, il faut le voir. Que la psychologie n'atteint pas la métaphysique. La psychologie, c'est le vécu de l'homme. Et on considère que ce vécu de l'homme est quelque chose d'absolu. Or, le vécu de l'homme n'est jamais quelque chose d'absolu. L'absolu pour nous, c'est le choix de la finalité. Dieu a créé notre âme pour que notre âme puisse le contempler. C'est ça l'absolu. Pour celui qui reconnaît que Dieu a créé notre âme. Vous voyez, c'est la finalité. Nous sommes faits pour voir Dieu. Nous ne sommes pas faits pour construire des maisons, construire des ponts, construire... Non, c'est très bien de faire ça. C'est une occupation. Ça permet de gagner sa vie, mais ce n'est pas ça qui finalise. Nous ne sommes pas faits pour écrire un bouquin. Écrire un bouquin, c'est la surabondance. Ce n'est pas la fin. Ça, je crois que c'est capital. Une fois que vous avez compris ça, vous ne pouvez plus tomber dans le psychologisme. C'est-à-dire considérer que le psychologue, c'est la chose ultime. Le psychologue est très nécessaire quand ça va mal. Et quelqu'un est boiteux. Il claudique, moralement. C'est-à-dire qu'il pique une crise de colère tous les jours à 11h30. Donc, il y a quelque chose. Il ne va pas. Le matin, il se réveille à peu près de bonne humeur, Mais dans la journée, l'accumulation des gens curieux qui sont venus le voir, l'agacer, ça éclate. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on n'est pas fait pour être en colère tous les jours à midi et demi. Il y a des gens qui, d'une façon très spéciale, nous mettent en colère. C'est très curieux, ça. Il y a des gens qui ne nous mettront jamais en colère et des gens qui nous mettent en colère en 5 minutes. C'est curieux. Alors, psychologiquement, c'est intéressant de savoir pourquoi. Oui, la psychologie est très nécessaire quand il y a un nœud. Un nœud. Je me mets en colère. Je me mets en colère parce que la porte est fermée. Quand la porte est ouverte, vous mettez jamais en colère. Mais quand la porte est fermée, c'est imbécile. Je lui avais dit je venais à telle heure. La porte est fermée. Alors, moralement, la porte est fermée. Alors là, la psychologie est bonne. Et elle peut être très éclairante. Mais elle éclaire sur les crevaisons. Elle éclaire sur les petites maladies ou les grosses maladies. Elle éclaire pour que nous puissions vivre. Mais elle ne nous donne pas la finalité. Demandez à votre psychologue ce qu'est la finalité. Tant que la finalité n'est pas présente dans votre vie, votre vie n'est pas entièrement ordonnée. Elle ne peut être ordonnée qu'à partir de la finalité. Vous voyez, c'est ce qu'on verra l'année prochaine, si Dieu le permet. La philosophie de l'acte, c'est la philosophie de la finalité. Or, la philosophie de l'acte, on ne la fait pas. Parce que c'est beaucoup plus subtil. Hein. La philosophie de la substance, la plupart des gens, des philosophes qui font la philosophie de la substance, s'arrêtent à la quiddité. Une métaphysique positiviste, une métaphysique idéaliste, c'est la substance. La substance première, la substance seconde. Très peu de métaphysiciens saisissent la substance principe d'être. Toute l'année, on a essayé de comprendre la substance principe d'être. La substance principe d'être, c'est la connaissance de l'être. L'être est premièrement substance. Le principe de l'être, c'est la substance. Alors, principe veut dire premier. Ce qui est premier dans l'être, c'est la substance. Alors, j'espère que, au moins, vous vous posez la question. Quel peut être le principe de l'être? Or, le principe de l'être n'est pas le sujet. Le principe de l'être n'est pas l'acuité. Donc, prendre comme principe de l'être le sujet ou l'acuité, ce n'est pas atteindre le principe de l'être. C'est atteindre les deux premières modalités de tout ce qui est. tout ce qui est a deux modalités. Sujet. Husserl, sujet. En effet, dans l'attribution, le sujet joue un rôle capital. Mais attention, quand vous dites « ceci est » et est supérieur à ceci. Si vous avez une métaphysique de la substance, une métaphysique de la substance sujet, vous resterez à ceci. Et vous voyez que ceci est ordonné à être. Ceci est. Je crois que dans toutes les langues, il faut voir dans le chinois. Parce que dans le chinois, c'est au fond le sujet qui est très fort. Il y a un positivisme extraordinaire dans le chinois. Je ne sais pas si en chinois, ceci est signifie quelque chose. Ce serait intéressant. Mais dans nos langues indo-européennes, le jugement d'existence est très significatif. Ceci est. Donc le sujet, c'est-à-dire ce qui reçoit l'attribution, ce qui est capable de recevoir l'attribution, le sujet est radical. Il est premier au point de vue radical. Il est ce qui supporte tout. Mais il n'est pas la substance. Il y a une confusion terrible entre le fondement et le principe. Le principe n'est pas fondement. Le fondement, c'est une modalité particulière du principe. Tout principe peut jouer le rôle de fondement, mais tout fondement ne joue pas le rôle de principe. Donc, vous avez des métaphysiques du sujet, vous avez des métaphysiques de la quiddité. Tout platonisme, c'est la quiddité, la réalité en soi. Et puis, le point de vue du sujet, le positivisme. Il faut dépasser le sujet, il faut dépasser la quiddité pour découvrir le premier dans l'être. Le principe, c'est le premier dans l'être. Et le premier dans l'être, c'est la substance. Et toute l'année, on a essayé de comprendre ce jugement d'existence. Ceci est. Ceci peut être n'importe quoi, mais il est, ça le caractérise. Je crois que le jugement d'existence, il faut y revenir constamment. C'est facile, hein ? Tout le monde peut méditer sur ceci est. Et en méditant sur ceci est, vous découvrez ce qui est premier au-delà du sujet. Parce que ce qui est important pour le sujet, c'est d'exister. Ceci est. Et l'existence est supérieure au sujet. Le sujet, c'est qu'une manière d'exister. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir l'exister en lui-même. Alors vous comprenez que ceci est me permet de dépasser le sujet, me permet de dépasser l'idée en soi et de découvrir le premier dans l'être qui est substance. Et je vois que le premier dans l'être qui est substance subsiste. Et c'est très joli, hein, de dire que le premier dans l'être subsiste. Ça veut dire que le premier dans l'être est capable de se retourner sur lui-même et de voir qu'il est. La subsistance, c'est la confirmation que le principe est premier. Une confirmation intellectuelle et réelle, ceci est. C'est pour ça que la subsistance qualifie la substance. Toute substance subsiste. Tandis que toute nature ne subsiste pas. La nature en elle-même, principe du mouvement, principe de la vie, n'est pas principe d'être. Il faut bien saisir ce point de vue de l'être qui dépasse le point de vue du mouvement, qui dépasse le point de vue de la vie, qui est quelque chose d'unique. Il est. Et il est en lui-même, il subsiste. Donc vous voyez, subsistance, c'est le retour sur la substance pour voir que la substance a cette qualité particulière d'être première, de dépendre de rien. Celui qui subsiste, subsiste en lui-même. Il ne dépend pas de quelque chose. Il n'est pas relatif, il est premier. Toute cette année-ci, c'était saisir la substance. Pour bien voir la différence entre la substance et la nature, phusis, phusia, phusis. La nature, elle est principe du devenir. La nature, quand je découvre un mouvement particulier, un mouvement spécial, je dis, il y a telle nature. La nature se manifeste par le mouvement. Elle est principe du mouvement. Alors, le mouvement n'est pas l'être. Le mouvement est ordonné à l'être, mais le mouvement n'est pas l'être. Donc, la nature est ordonnée à la substance, mais elle n'est pas substance. Si, au terme de cette année-ci, vous arrivez à bien distinguer nature et substance, vous n'avez pas perdu votre temps. Parce que dans la vie, c'est très important d'arriver à distinguer le premier dans l'ordre de l'être et le premier dans l'ordre du devenir. Et la première distinction philosophique, c'est de distinguer l'être et le devenir. Quand vous avez distingué l'être et le devenir, vous n'aurez jamais plus la tentation de considérer l'histoire comme une sagesse. Or, ça, c'est capital aujourd'hui de distinguer que l'histoire qui nous met en face du devenir humain, C'est le devenir humain qu'on essaie de saisir dans l'histoire, par les documents. Parce que quelqu'un qui n'a laissé aucune trace, pas de disciple, rien du tout, il n'a pas écrit. Il a vécu sous la tente. Il n'y a rien au point de vue histoire. L'histoire commence par les documents. Le document principal, c'est le crâne du mort. C'est le document principal. Et la méditation qu'on faisait dans le temps sur la mort, avec un crâne. On regardait le crâne pendant une heure. Au bout d'une heure, on était crâne. Le crâne nous dit, il a existé tel individu. Mais au fond, le crâne ne vous donne pas à quelle époque il existait. Alors, on essaie de découvrir ça par la résistance des ossements. Et c'est vrai, un crâne a résisté aux intempéries. Il a résisté mieux que tout le reste. Il n'y a plus que le crâne. Tout le reste fichu. Il a résisté aux intempéries. Mais les témoins, il a existé quelque chose là. Et je peux, en regardant un crâne, penser à quelque chose qui résiste au devenir et qui pourtant est dans le devenir. Ce crâne existe. Et ce crâne est lié aux intempéries. Ce crâne pourra très bien disparaître. Il est lié aux intempéries. Et quand pourrons-nous découvrir le crâne d'Adam ? Est-ce qu'il a résisté aux intempéries ? Et le crâne d'Adam, Ève n'était pas là pour mettre « Ici gît Adam ». Ou Adam a dit « Ici gît Ève ». On cherche. Et le propre du devenir, c'est de chercher indéfiniment. Parce que vous ne savez jamais quel est le premier du devenir. C'est ça qui est terriblement difficile dans les fouilles. Le père Deveau, dominicain, qui travaillait à Jérusalem, était un homme que j'ai très bien connu, un religieux, que j'ai beaucoup aimé. Il était un an avant moi, au mois du 9e. Je l'ai bien connu. Et il m'a expliqué, parce qu'il était devenu un très bon chercheur. Il me racontait tous ses déboires de chercheur, ses satisfactions de chercheur. On ne sait jamais si on atteint le sol dernier ou si on atteint un sol superficiel. Il y a un sol dernier. C'est très difficile à découvrir. C'est bien ça la fouille. Découvrir les maisons intermédiaires, c'est pas intéressant. C'est découvrir la première maison, le premier sol. C'est ça qui est intéressant. On a découvert en Palestine, certains sols, à certains endroits, on se demande si c'est le sol de la flagellation. On ne peut pas avoir la certitude. On reste dans le devenir, toujours. Et c'est ça qui est extrêmement curieux et intéressant, c'est de voir que la science, comme science, elle est dans le devenir et elle cherche de plus en plus de voir les liens dans le devenir, l'antécédent avant le conséquent. Et le conséquent, on le voit comme conséquent quand on a découvert l'antécédent. Mais si on n'a pas découvert d'antécédent, le conséquent est donné en soi. Il n'est pas encore relatif. C'est toujours relation. Et c'est toujours cela qu'on cherche dans le devenir. On voudrait beaucoup que le devenir soit absolu, mais le devenir n'est pas absolu. On n'a pas d'absolu dans le devenir. Dans notre vie, on a une histoire. Chacun d'entre nous, on a son histoire, plus ou moins intéressante. Mais notre histoire n'est pas notre être, n'est pas notre finalité. Notre finalité est au-delà de ce que nous avons fait. Et notre être est premier comparativement à notre devenir. Et la sagesse est au niveau de l'être, puisque Dieu ne peut pas être découvert par le devenir. Le devenir est toujours second. Et donc, Dieu ne peut être découvert que par l'être, et par l'être non pas fondamental, parce que l'être fondamental est découvert à travers le devenir, il est découvert par la finalité, parce que la finalité, elle se découvre elle-même, et non pas par le devenir. C'est ça. Il sera merveilleux à voir l'année prochaine, si Dieu le permet, c'est de chercher l'acte, le principe d'acte dans l'être, le premier dans l'acte, ce qui finalise tout. Et ce qui, par le fait même, est premier dans l'ordre de la bonté, dans l'ordre de l'attraction. La fin nous finalise, c'est-à-dire qu'elle nous attire, elle nous fait sortir de nous. Alors découvrir la fin de l'être, qu'est-ce qui dans l'être me finalise ? Ce sera cette recherche de l'acte. Vous voyez, au point de vue de l'être, il n'y a que deux recherches. La forme, la fin. Parce que le fondement, il est matériel, et la matière est toujours seconde, elle est en puissance. L'efficience, la cause efficace, elle est au point de départ du devenir physique ou de la vie. Donc, elle n'est pas première. Il n'y a que deux causalités métaphysiques, la forme et la fin. Donc, la métaphysique est la plus simple des sciences. Elle est sagesse. Elle est au-delà de la cause, de la cause matérielle. Elle est au-delà de la cause efficiente. Elle se moque de toute causalité matérielle et de toute causalité efficiente. Les deux seules causalités qui, elles, jouent un rôle capital dans le point de vue de l'histoire, dans le point de vue du devenir, la cause matérielle et la cause efficiente. C'est extrêmement curieux de voir que la métaphysique, elle, ne recherche que la cause formelle, la substance, la cause finale, l'acte. Elle ne recherche rien d'autre. L'être n'est pas dans le sujet, l'être n'est pas dans l'efficacité. L'être est au-delà du sujet. L'être est au-delà de l'efficacité. Il est formellement substance. Il est, au point de vue final, acte. Et ayant découvert que l'être a radicalement ces deux causalités, substance et acte, nous pouvons, par le fait même, découvrir qu'il existe nécessairement un être qui soit au-delà tout devenir, au-delà de toute efficacité, un être qui soit substance pure et acte pur, et que pour nous, notre substance est l'acte. Et donné d'une manière tout à fait particulière dans la personne. Il faut bien comprendre que la métaphysique se termine par une recherche de la personne. En nous, l'être se donne comme substance et comme acte. Et l'être se donne comme substance et comme acte. Et donc, il se donne pleinement à travers l'acte. Puisque c'est l'acte qui finalise tout. Et je puis chercher les diverses modalités par où l'être en acte se donne à moi. Il se donne à moi d'une façon subsistante. J'ai un être qui est au-delà du devenir, et tout mon être s'inscrit radicalement en moi. J'ai un être qui est à la fois intelligible et à la fois infiniment bon. J'ai un être qui se donne à travers l'intelligence et à travers l'amour. La personne, elle est premièrement dans mon intelligence et dans ma capacité d'aimer. Et cet être se donne à moi à travers cette manière de me posséder, la prudence, cette manière de dominer sur le monde extérieur. Cet être se donne à moi à travers mon corps, par où je suis un numéro du monde physique. Le monde physique me touche. Il ne m'est pas indifférent. Et ma personnalité, ma personne se développe à travers ce monde physique. La métaphysique se termine par la recherche de la personne. Le Saint-Père disait, il y a une quinzaine de jours, « Toute ma vie, j'ai voulu chercher ce qu'est la personne. » Et c'est vrai, c'est chercher cette manière particulière dont nous existons par notre connaissance et notre amour. Connaissance et amour de nous-mêmes. Connaissance et amour de nous-mêmes par rapport au monde physique. Connaissance et amour dans notre corps. Découvrir la grandeur de notre intelligence capable de découvrir Dieu et capable de l'aimer. C'est pour ça que la métaphysique doit nous servir à comprendre la finalité propre de notre personne humaine. Et à partir de cette finalité propre de notre connaissance humaine et de notre cœur, la question se pose, est-ce que nous sommes la réalité suprême? Ou sommes-nous dépendance d'une réalité suprême, le problème de Dieu.